Forma Résidence Artiste est un lieu de création et de recherche artistique ouvert aux disciplines des écritures et arts visuels, implanté au cœur de Boucouzé. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste plasticienne Blanche Bonnel en résidence à Forma tout le mois de septembre dans le cadre du dispositif Matière Vive porté par le pôle art visuel Pays de la Loire. Blanche Bonnel est une artiste pluridisciplinaire. Elle sculpte, elle assemble, elle tisse, elle filme. Elle vient questionner notre rapport au vivant, notre manière d'habiter le monde. Blanche navigue entre littoral et ruralité. Elle y collecte des matières vivantes comme des végétaux, des algues, des minéraux aussi, et des matériaux industriels mis au rebut. Derrière cette collecte se dessinent des histoires, des récits que Blanche retranscrit dans ses œuvres où la fragilité des environnements est mise en lumière, avec comme toile de fond des problématiques sociales, écologiques ou politiques. Blanche Bonnel est une artiste poétiquement engagée. Elle pose ses valises à Forma un mois durant et poursuit ses recherches liées à sa pratique artistique. Bonjour Blanche.
Bonjour.
Alors, on va ensemble évoquer un peu ton parcours. Tu es fraîchement diplômée de l'École des Beaux-Arts de Nantes en 2019. Ton travail se situe très vite à la lisière de l'empreinte que l'homme laisse dans son environnement. Alors, ma question est-ce que ton immersion à Dakar est pour toi un point de départ ou un prolongement de ta sensibilité aux écosystèmes fragiles ?
Alors, on va dire que c'est un moment très charnière dans mon parcours, cette projection à Dakar au moment de mon Master 2 à Nantes. Donc, quand je suis arrivée, j'ai d'abord commencé à Angers, aux Beaux-Arts d'Angers, jusqu'à ma troisième année. Et ensuite, quand je suis arrivée à Nantes, il y avait ce projet de départ dans un lieu choisi et proposé par une équipe enseignante. Et donc, j'ai choisi Dakar et c'est vrai que c'est venu cristalliser des questionnements qui étaient déjà présents dans mon travail. Mais ça m'a permis vraiment d'aller appuyer ces recherches, on va dire, in situ et face à une réalité qui s'imposait à moi. Donc ce projet à Dakar, c'était l'idée d'un film documentaire. C'était aussi le format le plus adapté pour moi en peu de temps. Enfin, il y avait 3 semaines pour vraiment creuser le sujet que j'ai choisi, qui était la construction, le projet d'une ville du futur, calqué sur les modèles de Dubaï, les grandes tours en verre, etc. Et donc cette ville du futur, moi, quand j'ai vu toutes les publicités qui en étaient faites, j'ai tout de suite voulu me questionner sur l'impact que ça aurait sur Dakar et les villes alentours. Et donc j'ai découvert ce petit village de Barni, un petit village de pêcheurs, qui se retrouvait complètement encerclé, entravé par tout ce que ça engendrait, cette construction. Donc une cimenterie, une centrale à charbon, l'érosion de leurs côtes par la mer, et donc la montée des eaux, les changements des paysages aussi, et cette ville du futur qui venait spolier des terres agricoles. Donc en fait, c'est vraiment venu appuyer plein de questionnements que j'avais, qui étaient déjà présents dans mon travail sur la question de la ruine, la destruction de l'environnement, l'impact qu'on pouvait avoir, et ça a été aussi l'opportunité pour moi, et je pense que c'était très important d'engager toute une recherche et des questionnements sur plutôt la question des luttes décoloniales, parce que voilà, c'est à Dakar, il fallait que je me pose ces questions-là en y allant, et c'était vraiment re-questionner aussi ma place, d'arriver avec une caméra, etc. Donc ça m'a permis de lire beaucoup, de vraiment creuser ces questionnements, et de faire le lien aussi vraiment entre notre rapport à l'écologie, à notre environnement, à cette domination qu'on a au niveau du système capitaliste, en tout cas, ouais. et la domination qu'on peut avoir aussi sur des humains et donc des peuples. Et voilà, donc ça a été aussi vraiment un moment effectivement important dans ma pratique pour me rendre compte que c'était toute une question globale, cette question de la domination et de l'attention qu'on est censé porter à notre environnement et aux relations.
Oui. Et justement, dans le prolongement de ça, tu explores aussi des matériaux comme le béton, notamment dans tes œuvres récifs, mais également le plâtre à travers tes pièces 50 par 20. Tu revisites ces matériaux emblématiques du brutalisme, notamment le béton, qui sont forcément le symbole de la solidité, de la résistance. Finalement, la résistance, on peut l'avoir aussi dans toutes les formes aussi de lutte. Et tu y apportes, toi, dans ton travail, tu viens questionner la fragilité de ces matériaux, de ces failles qui peuvent exister. Comment est né justement ton regard questionnant l'architecture, les arts plastiques, pour trouver des failles et venir vraiment appuyer ton travail là-dessus?
Comme tu l'as dit, ça partait au départ plutôt d'une fascination, je crois, pour les architectures brutalistes, et justement des architectures qui viennent s'imposer comme ça, un paysage de béton, très minimal aussi dans leur forme. Enfin, voilà, j'avais une forme de fascination esthétique aussi pour ça. Et donc, petit à petit, c'est venu aussi questionner la ruine, ces espaces de non-lieu où la nature reprend ses droits. Et finalement, à force de travailler là-dessus, de lire, etc., j'ai aussi cherché à essayer de comprendre cette fascination que j'avais, de savoir d'où elle venait et qu'est-ce qui vraiment, dans ces formes-là, m'attirait, qu'est-ce que je voulais questionner, en fait. Et donc, c'est vrai que finalement, c'était aussi cette présence de la nature qui venait fissurer le béton armé qui avait été construit là, posé là comme quelque chose d'immuable. Mmh. Et donc, c'est aussi vraiment pousser, justement, mettre en lumière ces failles pour montrer que rien n'est immuable et rien ne peut s'imposer comme ça à un paysage en imaginant que ça ne bougera jamais. Et que ça a une toute puissance, on va dire. Et donc voilà, d'aller chercher cette forme de fragilité là-dedans, c'était aussi mettre en lumière tout le temps ce côté qu'on peut avoir à imposer des choses, à dominer à travers des formes comme l'architecture brutaliste, et de venir remettre ça en question et de dire qu'en fait, non, c'est pas possible, qu'il y a toujours une relation et que une relation à son environnement et que en fait ces formes, comme tout le reste, elles vont finir par se fragiliser, disparaître petit à petit et être de nouveau fondues dans un environnement naturel. Voilà, c'est aussi à travers ces formes pousser ça, aller chercher cette fragilité là à l'image finalement du monde qui nous entoure.
Voilà. Et justement, comment tu as fragilisé le béton? Il y a certaines de tes œuvres qui sont intéressantes, justement, ou même avec les parpaings. Enfin, voilà, si tu veux expliquer un peu rapidement, peut-être, mais en tout cas, comment tu es venu apporter toi-même ces failles dans ces matériaux?
Alors, le béton, en fait, c'était vraiment le questionnement de la problématique du sable. Qui est encore une problématique hyper importante aujourd'hui, du sable qui manque et du sable qu'on utilise dans la construction et dans le béton. Et donc moi, je suis fille de conchyliculteur, donc c'est un agriculteur de la mer qui produit des coquillages. Et donc j'ai pu, en ayant grandi aussi dans cet environnement, j'ai pu observer à un moment des montagnes de coquillages vides qui étaient finalement aussi des déchets. Et qui n'était pas forcément remise dans la mer ou en tout cas dans l'environnement. Et donc, ça brisait ce cycle aussi de reconstruction du sable en extrayant de nouveau une matière de la mer et en ne la remettant pas dans ce cycle-là. Donc, c'est venu aussi de cette idée-là de réutiliser ces coquillages vides et de venir moi-même accélérer le processus et de venir broyer ces coquillages pour en faire du sable. Et les utiliser comme ça dans le béton et voir ce que ça donne. Et en fait, bah, le sel encore présent sur les coquillages, tout ça, ça donne un béton qui est friable finalement, qui s'abîme. Et c'est il n'y a pas si longtemps, découvert que qu'il y a des bétons comme ça en bord de mer où le sable était encore salé, qui était construit très rapidement.
Ah oui.
Donc il y avait encore la présence de sel dans le sable. Et donc ça donne des bétons qui s'abîment très vite. Et il y a aussi un système de mettre du sable dans le béton pour un peu venir le saboter, entre guillemets. Et donc finalement, c'était tout ce questionnement-là. Et ça a donné du béton pour eux. Je voulais vraiment remettre en question ce côté immuable. Et puis aussi poser cette question. Aujourd'hui, on parle de la bétonisation des sols, des problèmes qui sont encore actuels. On le voit aujourd'hui où l'eau ne peut plus pénétrer à travers le béton qui n'est pas poreux dans les villes. Donc ça crée des inondations, etc. Et donc maintenant, il y a des recherches qui sont faites pour intégrer des coquillages au béton et rendre les sols poreux et permettre à l'eau de s'écouler. Donc il y avait, enfin ça, finalement à partir d'une matière que j'ai un peu bricolée comme ça, ça pose aussi plein de questions. Je découvre aussi plein d'intérêts actuels pour ce genre de matériaux. Mais après moi ça reste des matériaux que j'utilise voilà pour ces sculptures et je vais pas plus loin dans la recherche on va dire du design de cette matière. Mais voilà, c'était un peu une manière d'aborder toutes ces questions-là et d'avoir ce béton qui, finalement, esthétiquement, est assez fragile. Et pour le parpaing en plâtre, donc l'œuvre 50 par 20, donc là, c'est un parpaing, vraiment le moule d'un parpaing classique, on va dire, le modèle universel de construction qu'on utilise dans toutes les constructions uniformisées, on va dire, aujourd'hui. C'était l'idée de reprendre ce symbole-là et de le couler en plâtre en intégrant directement des graines de blé dedans qui vont utiliser l'humidité du plâtre et germer et petit à petit détruire ce parpaing qui finalement est l'antithèse d'un matériau de construction.
Oui.
Et là, finalement, la nature est vraiment au cœur de ce symbole de l'architecture. Et ça venait aussi, l'utilité du blé, ça vient vraiment de... En fait, apparemment, j'avais lu qu'en médecine, à l'époque, pour étudier les ossements humains, sur les cadavres, pour séparer les os du crâne humain, on mettait des graines de blé qu'on faisait germer, parce que la germination était assez puissante pour séparer les os.
Oui.
Sans briser, séparer les parties du crâne.
Ok, la germination laissait la place, effectivement, séparait l'ensemble des os.
Okay. Voilà, de manière assez... c'était assez fort et en même temps, c'était assez... ça se faisait assez doucement pour ne pas tout briser d'un coup. Et donc, voilà, de cette anecdote aussi est venue cette idée de reproduire... ça à travers cette pièce. Voilà, à chaque fois, c'est des petites anecdotes aussi qui viennent
dans tes
nourrir
recherches,
mon travail. Voilà.
Et justement, tu es très poreuse au paysage qui t'entoure, à l'environnement. Et dans ce paysage, il y a le littoral qui fait partie de toi. Il y a ces flux et reflux à travers lesquels la mer dépose tout un tas de déchets, de matières, d'organismes. Et là encore, tu poses un geste écologique en venant les collecter et toi, tu les transformes dans tes créations. Quel est ton rapport justement à ce littoral et quelles œuvres ont émergé justement dans tout ce travail de collecte?
Comme je disais, mon rapport au littoral, il est là depuis que je suis toute petite.
Tu es de Saint-Nazaire.
Voilà, je suis originaire de Saint-Nazaire. Donc en même temps, c'est... assez intéressant comme ville parce que c'est une ville littorale mais qui est aussi où les paysages sont extrêmement transformés par l'homme avec les chantiers etc. Enfin c'est quand même une ville aussi industrielle donc Le rapport au littoral, voilà, il est là, comme je disais, depuis petite. Il y a aussi ce qui s'est passé quand j'étais très petite, il y a eu la catastrophe de l'Erika. Donc ça a été tout de suite un engagement par mes parents, plutôt militants, contre cette marée noire. Donc je pense que ça a été des marqueurs vraiment dans ma vie, et donc une attention particulière à la mer et voilà, à l'océan et à cet environnement. Et donc, c'est vrai que ça faisait partie de moi de me balader au bord de la mer, etc., et de ramasser ce qui est remis par les tempêtes, les flux et les reflux, comme tu disais, et qui sont des témoins souvent d'une activité humaine. Et donc, j'ai collecté comme ça plein de petites choses, autant naturelles qu'artificielles, pendant très longtemps. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion, pendant une résidence, de reprendre toute cette collecte et de venir assembler des pièces petit à petit avec tous ces éléments. Et il y a un élément en particulier qui est un peu à la base de tout ce projet, qui est les larmes de sirène, qui est un terme qui est utilisé pour décrire des granulés de plastique, qu'on appelle les GPI, qui sont des petites billes de plastique utilisées pour l'industrie, pour thermoformer tous les objets qui peuvent nous entourer.
En plasturgie, dans ces activités-là. Ouais.
Et en fait, malheureusement, il y a des conteneurs qui se déversent en mer, qui tombent de bateaux. Et donc, on appelle ça les marées blanches. Mmh. Là, ce n'est plus les marées noires, c'est les marées blanches. Où toutes ces petites billes de plastique sont ramenées sur la plage et se mélangent au sable. Donc, ce terme poétique aussi pour définir une pollution qui est catastrophique, presque invisible et en même temps omniprésente,
ouais.
Il m'avait marqué à l'époque dans un article que j'avais lu. Et donc, c'était l'idée de moi-même aller récolter ces petites billes de plastique et essayer d'en faire quelque chose. Donc, ça a été aussi la création d'une pièce à ce sujet-là, et l'idée aussi de rendre visible ce qu'on ne va pas forcément voir. Et donc voilà, c'était la naissance aussi d'une réflexion autour du littoral, et c'est quelque chose que je continue à développer. Voilà.
Et quand on parle du littoral, on parle de paysage et on continue le fil, et on arrive aussi dans la ruralité, qui est une autre facette de toi, et ton attention est depuis toujours portée aux matières aussi naturelles, brutes, non transformées. Et tu t'intéresses justement à la vase crue, à l'osier, à l'ardoise qu'on connaît bien en Anjou. Et quelle approche fais-tu justement de ces matières naturelles dans ton travail ? Une question assez vaste. Hein.
Non, en fait, je pense que j'ai toujours été un peu, comme on disait, poreuse aux environnements qui m'entourent. Donc, quand j'étais encore en études à Nantes, c'était énormément de chantiers autour de l'école. Donc, voilà, je récupérais plus facilement des éléments industriels ou des rebuts de chantier. Finalement, quand je suis au bord de la mer, au littoral, je vais récupérer plus facilement des choses qui sont rejetées par la mer. Et après mes études, récemment, j'ai déménagé vraiment au milieu rural, en plein milieu de la campagne. Et donc, je continue ces gestes-là, à être attentive à mon environnement quand je me balade, quand je découvre les environnements qui m'entourent. Et donc, ça a amené de plus en plus de matières naturelles dans mon travail ces dernières années. Comme tu disais, l'osier, c'est en fait, ça part d'une proposition d'atelier de vannerie gratuite dans un petit bar d'un village juste à côté de chez moi, et où j'ai commencé à y aller au début aussi pour rencontrer les gens et puis pour découvrir une technique que je connaissais pas. Donc j'y suis allée pendant un an tous les jeudis soirs pour tisser un panier, et petit à petit, ce geste-là de tissage et cette matière de l'osier, un peu naturellement, j'ai voulu l'utiliser dans mon travail. Donc voilà, c'est aussi des savoirs qui se transmettent et des gestes qui, que je ne vais pas forcément faire dans ma pratique artistique au départ, qui viennent s'intégrer à ma pratique. Et la vase crue, bah, c'est la vase qui s'est déposée après la crue de la Vilaine, la rivière qui est à côté de chez moi. Et donc c'est pareil, c'est au cours d'une balade, j'ai vu tous ces morceaux craquelés de vases au bord de la rivière et j'ai eu envie de les ramasser et de me dire que c'était la trace d'un événement, d'un moment, d'un paysage et que voilà, je trouverais un moyen d'en faire quelque chose. Et donc ça vient des fois aussi un peu à rebours du moment où je ramasse parce que
oui.
Là, l'œuvre, cette œuvre-là, la crue, je l'ai finalisée il y a quelques mois, alors que la vase, je l'avais ramassée il y a déjà 2 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc voilà, des fois, c'est ouais. aussi à rebours. Il y a toujours une temporalité entre le moment où je vois une matière, elle m'intéresse, je la ramasse, et après, bah, je vois ce qui naît de ça. Il y a un temps aussi d'adaptation dans l'atelier, on va dire, de ouais. digestion de,
oui, c'est ça,
de
bah
cette
oui.
matière.
Qui t'interpelle voilà. comme une fascination, d'une oui. certaine manière. Après, bah, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Je la transforme?
Oui, exactement.
Et en plus, justement, la vase crue, elle a aussi des traces elle-même.
Oui.
On en avait discuté, mais effectivement, d'empreintes de pneus, de plantes.
Oui, qui, d'animaux.
Voilà, c'est ça, qui ouais. donne aussi quelque chose aussi à la fois poétique... Et qui parle à tout le monde, finalement. C'est...
Oui, comme la mémoire d'un territoire
ouais, voilà.
aussi. C'est,
ouais.
c'est un peu l'idée. Et puis finalement, bah, aujourd'hui, j'ai fini la pièce il y a quelques mois. Et en fait, il y avait eu la plus grosse crue de la Vilaine
ah, ouais, d'accord.
juste quelques mois avant. Donc finalement, il y a eu un peu un truc d'anticipation, sans le savoir. Donc ça venait re-questionner aussi une problématique... de nouveau écologique et politique, mais c'était pas vraiment prévu au départ. Moi, quand j'ai ramassé la vase, c'était une crue classique. Voilà, c'est quelque chose qui se passait à chaque hiver. Mais finalement, la pièce est née après une crue un peu plus dévastatrice et plus importante oui. De la Vilaine. Donc voilà, c'est aussi intemporel au niveau de ces questionnements. Et effectivement, c'est des matières, à chaque fois, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de la matière brute, d'une histoire qu'elle contient qui est importante pour moi. Et puis après, il y a aussi des affinités esthétiques. Enfin,
oui.
Il y a beaucoup de choses, c'est souvent des matières naturelles ou des rebuts, où au niveau esthétique, ça va me parler, quoi.
Comme les paysages que tu peux voir naître sur l'ardoise
voilà.
que tu as ramassé près de chez toi.
Oui, donc l'ardoise, c'est vrai que c'est juste à côté de chez moi, il y a une toute petite carrière qui n'est même pas une carrière déclarée. Je pense que ça a été vraiment pour construire les 2-3 maisons de mon hameau. Mais il y a cette butte qui s'est formée de déchets d'ardoise et toutes ces ardoises qui ont, en prenant l'eau de pluie, sont sur lesquelles se sont dessinés des paysages de rouille, en fait. Et des nuances de couleurs voilà, dans les rouges, les ocres. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée. Et puis, en parallèle de ça, moi, j'observais énormément de toitures autour de chez moi, de ruines et de maisons abandonnées où les toitures d'ardoise devenaient presque organiques. Donc, en fait, en corrélation de ces deux observations, j'ai récolté cette ardoise qui esthétiquement me touchait. Et l'idée, c'était, en la tissant et en l'assemblant, de vraiment recréer aussi quelque chose de plus organique et de questionner cette matière qui est finalement utilisée, qui est extraite et utilisée pour nous servir d'abri aussi. Donc ça revient aux questions d'habitat, de comment on habite un lieu. Et
de protection.
De protection. Ouais. Aussi. Et donc c'est vrai qu'en même en tissant ces ardoises, soit ça fait penser à des écorces d'arbres, mais ça peut aussi faire penser à une protection qu'on pourrait mettre comme une côte de maille. Enfin,
ouais.
voilà, il y a un peu ce principe-là. Et donc voilà, il y a quand même toujours aussi en fond de mon travail des interrogations sur cette question de l'abri et de la protection, qui sont pas forcément visibles directement, mais qui sont présents sur comment on se protège et comment on relationne avec notre environnement.
C'est vrai que grâce à toi, moi, j'ai redécouvert l'ardoise. Enfin, je crois que je vais plus du tout la regarder de la même manière avec ce mois passé à tes côtés. C'est vrai que je trouve ça plutôt joyeux de se re-questionner sur des matériaux qui font tellement partie de notre environnement. De les voir différemment, de les re-questionner. Je pense que dès que je verrai des traces de rouge, je penserai vraiment à toi. et justement, tu as passé un mois à Forma avec beaucoup de moments qui sont venus ponctuer ta résidence. Des rencontres, des temps de découverte au musée de l'Ardoise, même à la Mine Bleue, des présentations de ton travail à la médiathèque de Boucouzé, comme à Witt, des ateliers aussi avec les élèves de l'école Ravel de Boucouzé qui se poursuivent. Et bien sûr, pour ta part, la poursuite aussi de tes recherches artistiques, notamment, effectivement, en Anjou, autour de l'ardoise, mais sans doute pas que. Encore une vaste question que je te pose, mais un mois de résidence, c'est à la fois court et long, il peut se passer plein de choses. Que retiens-tu, d'une certaine manière, de cette résidence qui s'achève dans ton travail, dans ta posture d'artiste, peut-être, dans ton rapport au monde?
C'est vrai que c'est vraiment une chance d'avoir aussi ce temps donné, un mois hors de l'atelier aussi, hors du quotidien, et d'avoir vraiment un temps dédié à la recherche, à la pratique, et ces possibilités de faire lien. Enfin, c'est vraiment une chance et c'était vraiment enrichissant pour moi. Parce qu'au final, je suis venue avec déjà cette matière de l'ardoise que j'avais récoltée plutôt autour de chez moi, où je l'avais plutôt travaillée de manière empirique à l'atelier. Et là, ça m'a vraiment permis de venir avec cette matière au final et de la questionner et de découvrir toute l'histoire qu'il y a derrière. Alors, à travers des rencontres comme le musée de l'Ardoise ou la Mine Bleue ou des lectures. C'est vrai que ça aussi, ça a été la résidence, elle a permis aussi un vrai temps de lecture,
oui.
Qui est pas toujours évident à prendre quand on est dans le rythme de l'atelier, de la production, un vrai temps où on peut poser les choses et reprendre le temps de la recherche aussi, qui est toujours là en filigrane. Derrière la pratique, mais c'était vraiment une parenthèse aussi qui permettait de venir explorer vraiment de manière plus détaillée tout ça. C'était hyper intéressant à ce niveau-là. Et puis, je retiens une belle aventure humaine, surtout.
C'est clair. Et Canine, il y avait Nénès, ton chien.
Voilà.
Aussi. À Forma, on aime aussi les bêtes.
Oui. Et ça, c'était très chouette parce que pour un artiste, une artiste ou un artiste, partir de chez soi un mois, deux mois, trois mois, c'est en même temps hyper. Une super opportunité, et puis des fois ça peut être un peu intimidant, donc d'avoir le soutien canin avec moi, c'était super chouette, et puis ça permet de faire des belles balades aussi.
Ouais.
C'est vrai qu'elle m'accompagne dans mes pérégrinations pour découvrir les territoires, mais vraiment au niveau, l'aventure humaine que ça a été, c'était vraiment. Très chouette d'avoir cet accueil-là
c'est partagé,
de la part de Forma. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Je me vois pas... plutôt à m'intéresser à la relation. Donc, si j'étais complètement déconnectée de l'humain, ça n'aurait vraiment pas de sens pour moi. Donc, c'est aussi ce que je retiens, les relations humaines.
Merci pour ta confiance, parce que c'est vrai que C'est aussi grâce au dispositif Matière Vive dans lequel on est partenaire. Et c'est vrai qu'on est bien triste que tout ça disparaisse avec les coupes budgétaires régionales. Donc, c'est une forme de solidarité aussi à la culture au sens large. Et ça a un côté un peu politique et militant quand même, tout ça. Oui. Et finalement, ça vient aussi questionner ton travail. Enfin, ouais. Donc, finalement, on boucle une boucle aussi de cette manière-là. Ouais. Et deux petites dernières questions. Est-ce que tu as... Quelle est ta prochaine actualité, justement, après la résidence ? C'est quoi le plan ?
Alors, après la résidence, je repars en résidence. Mais alors, pas dans une structure. Je pars toute seule pour entamer un projet de film qui me tient à cœur depuis longtemps. Et pour lequel, là, j'ai eu des aides à la création pour pouvoir commencer ce tournage. Et c'est un film que je fais sur une toute petite île volcanique qui se trouve en Sicile, au sud de la Sicile. Et c'est l'idée de questionner l'insularité et le rapport de ces 300 habitants à l'année avec leur environnement naturel qui est très symbiotique. Voilà, de croiser leur rapport à l'île et le fait qu'ils y reviennent. Ils finissent toujours par revenir, même s'ils partent faire des études sur le continent. Ils finissent toujours par être attirés par une espèce de force qui les aimante. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, je vais essayer de créer ce parallèle de manière poétique avec deux espèces animales qui, elles aussi, sont aimantées d'une certaine manière car elles reviennent pondre et se reproduire sur l'île chaque année. Donc ça, c'est un terme au niveau biologique qui s'appelle la philopatrie, d'être accroché à un territoire pour venir s'y reproduire. Et donc voilà, je vais essayer de questionner pourquoi cette île nous aimante de cette manière. Et je dis nous parce que j'en fais partie, puisque du coup j'y retourne depuis que j'ai 10 ans, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc finalement, je fais partie de
cet aimant.
Cet aimant, voilà. Donc c'est un vaste sujet, mais que je vais essayer de débarrer tout le mois d'octobre.
Donc à suivre pour le coup. Et est-ce que tu as envie de nous partager une référence, une lecture, quelque chose pour conclure ?
Alors, c'est comme je te disais, les références, c'est toujours un grand sujet pour moi. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y en a parfois beaucoup et ça dépend des projets. Mais par rapport à ce qu'on s'est dit là, il y a une référence qui est très importante pour moi au moment où... où je suis partie à Dakar aussi, et puis qui rassemble quand même pas mal de questionnements. C'est la poétique de la relation de... Je vais la trouver. De Édouard Glissant, qui est un très beau, très bel ouvrage sur ces questions-là. Et puis, dans le même thème, ensuite, il y avait pour une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen de Malcolm Ferdinand, qui est sorti en 2019 au moment de mon diplôme et de l'écriture de mon mémoire, et qui a été aussi un ouvrage très important pour moi parce qu'il venait vraiment d'écrire tout ce que j'étais en train de découvrir aussi sur cette question du lien entre l'écologie, la colonisation, etc. Enfin, ce rapport de domination qu'il faut essayer de déconstruire. Donc, ça a été un ouvrage assez clé pour moi. Et puis après, dans les documentaires visuels, il y a quand même un réalisateur qui m'a vraiment marqué aussi. Et je pense que c'est aussi lui qui m'a donné envie de faire du documentaire et de poursuivre et de ne pas lâcher quand même cette pratique du documentaire qui vient plus sur des temps longs que la pratique de la sculpture, mais c'est Patricio Guzman, qui est réalisateur chilien, et qui a fait cette trilogie avec Le bouton de nacre, La nostalgie de la lumière, La cordillère des songes, où à chaque fois, de manière très poétique, il raconte l'histoire de son pays, le Chili, qui est une histoire complexe, mais il arrive à faire des œuvres assez éblouissantes. Donc voilà, c'était à cette époque-là, déjà pendant mes études, c'est des films qui m'ont marqué.
Oui, et qui t'accompagnent pour le coup voilà. Au fil de tes pérégrinations.
Oui, ouais. Bon, il y en a plein d'autres.
Oui, oui, bien sûr. De toute manière, on remettra les références dans la page du podcast pour que si vous avez envie d'être un peu curieux, d'aller prolonger cet échange autour de ces références. Moi, j'ai envie de te dire bonne route, Blanche. Merci à toi de ta confiance pendant tout ce mois de résidence. Pour découvrir en images le travail de Blanche Bonnel, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Blanche Bonnel, tout attaché, et sur son site internet, toujours tout attaché, blanchebonnel.com. L'association Forma est soutenue par la ville de Boucouzé et WIT, Café Culturel à Angers. Cette série d'entretiens des artistes accueillis à Forma est produite par Radio G. Un grand merci à eux pour cette carte blanche.